Chapitre 10. À l'assaut, à l'assaut. De son côté, Corcoran ne s'endormait pas. Il galopait à côté de Sita, maudissant la sotte curiosité de l'Anglais qui lui avait fait perdre un temps si précieux. Cependant, il espérait que l'approche de la nuit, l'éloignement du camp anglais, et quelque accident heureux, peut-être la rencontre de l'avant-garde d'Holkar, lui donnerait le loisir de regagner Bhagavapur. Ce qui le fâchait le plus, c'était d'être obligé de fuir. Fuir devant les Anglais, pensait-il. Quelle honte! Que dirait mon père s'il me voyait? Pauvre père, qui n'a jamais rencontré un Anglais sans lui proposer une partie de boxe, ou de savate, ou de quelque autre divertissement semblable à ceux qui réjouissent ces gentlemen. Et moi je galope devant eux, et tout à l'heure, au lieu de prendre ce maudit bavard à la cravate et de le jeter dans le fossé, comme j'en avais envie et comme c'était mon devoir, je n'ai pensé qu'à lui laisser croire que j'étais un god d'âme comme lui. C'est à se briser la tête contre la muraille. Pendant ces réflexions, il s'aperçut tout à coup que son cheval faiblissait, que le galop se ralentissait et, malgré les coups d'éperon, se changeait en un simple trot. Il se retourna et vit que sa botte était couverte de sang. Son cheval avait reçu une balle dans le flanc. Ce nouveau malheur n'abattit pas le courage du Breton. Il se hâta de mettre pied à terre. « Que faites-vous ? » demanda Sita. « Est-ce le moment de faire halte ? Les Anglais sont sur nos traces. »«
Ce n'est rien, » dit Corcoran. Mon cheval est blessé par la décharge que ces lâches coquins ont faite sur nous il y a un instant. Sita, si vous voulez fuir, partez seul. Louison vous accompagnera et vous défendra.
Oui, dit Sita.
Mais qui me défendra de Louison?
Corcoran parut frappé de cette réflexion.
C'est vrai, dit-il. Louison n'a pas dîné, il est déjà tard. Je ne crains rien pour vous sans doute, mais je ne répondrai pas de votre cheval, ou peut-être Louison irait-elle chercher sa proie dans le voisinage.
« Capitaine, dit Sita en descendant de cheval, je reste avec vous. Quel que soit le sort qui vous attend, nous le partagerons ensemble. »«
Ah, dit Corcoran avec joie, voilà qui tranche toutes les difficultés. Qu'ils viennent maintenant, tous les Anglais, et John Robarts, et Barclay, et les colonels, et les capitaines, les majors, et tous les habits rouges de la création. »
En même temps, il chercha dans les fontes des selles des deux chevaux et trouva deux revolvers tout chargés. Celui qu'il avait à la ceinture était le troisième, et Corcoran avait des cartouches dans ses poches.
« Nous avons des armes et des munitions, dit-il. Pour 30 ou 40 coups de feu, et comme je compte bien ne tirer que de près et à coup sûr, je crois que tout ira bien. Venez avec moi, Sita. Et toi, Louison, va devant comme un éclaireur, et regarde s'il n'y a pas quelque ennemi caché dans la jungle. »
Le plan de Corcoran était très simple. De la route où il était, il apercevait à quelque distance une petite pagode indienne abandonnée à laquelle paraissait aboutir un sentier assez large tracé dans la jungle. C'est là qu'il voulait chercher un asile. Entrer dans la pagode, en refermer la porte sur eux, barricader l'entrée avec des poutres qui se trouvaient par hasard dans le voisinage et percer des meurtrières à travers la porte, ce fut pour les fugitifs l'affaire d'un instant. Louison regardait ses préparatifs avec étonnement. Elle était même un peu mécontente. Cela se comprend. Elle adorait le grand air, les prairies, les vastes forêts, les hautes montagnes. Elle n'aimait pas à être enfermée. Et surtout, elle ne comprenait pas qu'on prit tant de peine pour s'enfermer soi-même. Aussi, Corcoran lui prit soin de lui expliquer les raisons de sa conduite. « Louison, ma chérie, lui dit-il, il n'est pas temps de vous livrer à vos caprices et de courir les champs suivant votre détestable habitude. Si vous aviez rempli votre devoir ce matin, nous n'en serions pas, vous et moi, à l'heure qu'il est, enfermé sans souper dans une méchante pagode où il n'y a pas le moindre gibier. Vous avez fait le mal, ma chérie, il faut le réparer d'une façon éclatante. Donc attention, tenez-vous derrière cette fenêtre ouverte, et si quelque gentleman essaye de l'escalader, je vous le livre, ma chérie. » Ayant donné ses ordres, que Louison promit d'exécuter ponctuellement, du moins on pouvait le deviner, à la vivacité de son regard et à la manière affectueuse dont elle remuait la queue et entr'ouvrait ses lèvres, Corcoran se retourna vers Sita pour l'encourager. « Oh, ne me prenez pas la peine de me rassurer, capitaine, » dit-elle en lui tendant la main. « Ce n'est pas pour ma vie que je crains, c'est pour vous, qui allez donner la vôtre avec tant de générosité, et pour mon père qui ne survivrait pas, je le sais, au désespoir de me voir entre les mains des Anglais. Mais, ajouta-t-elle, les yeux brillants de fierté, soyez sûr que la fille d'Holkar ne sera pas reprise vivante par ces barbares aux cheveux roux, ou je serai libre avec vous, ou je mourrai. Et elle tira de sa ceinture un petit flacon qui contenait un de ces poisons subtils dont l'Inde est remplie. « Voilà, dit-elle, ce qui me sauvera de la servitude et du déshonneur d'épouser ce traître Rao. » Comme elle finissait de parler, Corcoran entendit un bruit léger comme le sifflement du cobra capello, ce terrible serpent de l'Inde. Il se leva brusquement, mais Sita lui fit signe de se rasseoir. À ce sifflement succéda le cri du colibri, puis un bruit de feuilles froissées. « Qu'est cela ? » dit Corcoran. « Ne craignez rien, c'est un ami, répliqua Sita. Je reconnais ce signal. » En effet, après un court instant, une voix d'homme chanta doucement ces vers du Ramayana, par lesquels le roi Janaka présente la belle Sita à la Vidéenne, sa fille, à Rama, son fiancé. « J'ai une fille, belle comme les déesses et douée de toutes les vertus. Elle est appelée Sita, et je la réserve comme une digne récompense et la force. Très souvent, des rois sont venus me la demander en mariage, et j'ai répondu à ces princes, sa main est destinée en prix à la plus grande vigueur. » Sita se leva alors et récita, comme une réponse à la question qui lui venait du dehors, les belles paroles que la Vidéenne adresse dans le poème de Valmiki à Rama, son époux, lorsque, par la perfidie de Kekegi, ce héros invincible fut envoyé en exil et privé du trône. Ô toi, de qui les beaux yeux ressemblent aux pétales de lotus, pourquoi ne vois-je pas le visage qui égale en splendeur le disque plein de l'astre des nuits ?
Ouvrez ! Cria alors la voix du dehors. Ouvrez ! Je suis Sugriva !
Corcoran lui tendit la main par-dessus la fenêtre, et quand l'hindou, s'accrochant au saillie du mur, fut parvenu jusqu'à cette main, le robuste breton l'enleva comme une plume et le déposa dans l'intérieur de la pagode. À peine arrivé, Sugriva se prosterna devant la fille d'Holkar. « Relève-toi, dit Sita. Où sont les Anglais ?
À 500 pas d'ici.
Ils nous cherchent toujours ?
Oui.
Et ils ont retrouvé nos traces ?
Oui.
L'un des deux chevaux que vous montiez s'est abattu, frappé d'une balle. Ils en ont conclu que vous deviez être dans le voisinage. Et toi, qu'as-tu fait ?
L'hindou se mit à rire silencieusement.
J'ai fait verser en travers de la route le chariot que je conduisais. Les autres coulis en ont fait autant. C'est un quart d'heure de gagné. Ici, Corcoran s'aperçut que la figure de Sugriva était ensanglantée.
« Qui t'a fait cela ? » demanda-t-il.
« Le seigneur John Roberts, » répliqua l'hindou. « Quand il a vu le chariot verser, il m'a donné un coup de cravache. Mais je le retrouverai. Oh oui, je le retrouverai avant 3 jours, ce chien d'anglais. » « Sugriva, » dit la belle Sita, « mon père te donnera la récompense que tu as bien méritée. » « Oh, » dit l'Indien, « je ne donnerai pas ma vengeance pour tous les trésors du prince Holkar, mais elle est très proche, je le sais. » Et comme il voyait quelques doutes dans le regard de Corcoran, « Seigneur capitaine, » dit-il, « vous êtes des nôtres, puisque vous êtes l'ami d'Holkar. Avant 3 mois, il n'y aura plus un Anglais dans l'Inde. »
« Oh, oh !» dit Corcoran, « j'ai entendu bien des prophéties, et celle-là n'est pas plus sûre que toutes les autres. »
« Sachez donc, » dit Sugriva, que tous les cipayes de l'Inde ont fait serment d'exterminer les Anglais, et que le massacre a dû commencer il y a 5 jours, à Meerut, à Lahore et à Bénarès. »
« Qui te l'a dit ?»«
Je le sais. Je suis le messager de confiance de Nana Sahib, le Raja de Bithor. »
« Mais ne crains-tu pas que j'avertisse les Anglais ?»«
Il est trop tard, » répliqua l'hindou.
« Mais, » reprit Corcoran encore, « qu'es-tu venu faire ici ?»«
Seigneur capitaine, » répliqua Sugriva, « je vais partout où je pourrais nuire aux Anglais. Je ne voudrais pas que Roberts mourût d'une autre main que la mienne. » À ces mots, il s'interrompit tout à coup.
« J'entends le bruit des chevaux qui trottent dans le sentier, » dit-il. « C'est la cavalerie anglaise qui arrive. Tenez-vous bien, car l'assaut sera rude. »
« Bon, bon, » dit Corcoran, « je n'en suis pas à ma première affaire. Toi, charge les armes, et vous, Sita, invoquez pour nous la protection de Brahma. »
Quelques instants après, 50 ou 60 cavaliers entourèrent la pagode et apprêtèrent leurs armes en silence. Tous les autres étaient retournés au camp. Robarts, qui commandait le détachement, s'avança et dit d'une voix forte. « Rendez-vous, capitaine, vous êtes mort. »«
Et si je me rends, » répliqua Corcoran, « serais-je libre avec la fille d'Holkar ?»«
Par le diable !» cria Robarts. « Vous êtes en notre pouvoir. Allez-vous nous dicter des conditions ?»«
Rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Voilà tout ce que je puis vous promettre. »
« Eh bien, » dit Corcoran, « faites ce qu'il vous plaira. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, commencez. »
À ce signal, les Anglais mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux à des arbres et se préparèrent à enfoncer la porte de la pagode avec les crosses de leurs carabines. Au premier coup de crosse, la porte trembla et chancela sur ses gonds.
« Vous l'avez voulu, » dit Corcoran. « Qu'il soit fait suivant votre plaisir. »
En même temps, il tira un premier coup de revolver par la fenêtre laissée entr'ouverte.
Un Anglais tomba, frappé mortellement. Aussitôt, Corcoran s'effaça contre le mur, et ce fut un grand bonheur pour lui, car à peine l'eut-on aperçu qu'on tira sur la fenêtre 15 ou 20 coups de carabine. Aucun ne l'atteignit.
« Mes enfants, dit-il, vous jetez votre poudre au moineau. Voici comment il faut viser. »
Et d'un second coup, il blessa un autre de ses assaillants. À ce coup de revolver, les Anglais ripostèrent par une seconde décharge, qui fit aussi peu de mal à Corcoran que la première.
« Gentlemen, dit-il, vous ne faites rien ici que de casser des vitres. N'allez-vous pas essayer quelque chose de plus sérieux ?»
C'était bien l'intention des Anglais. Pendant que le gros de la troupe tiraillait contre la porte et la fenêtre de la pagode, 5 ou 6 cavaliers étaient allés chercher un tronc d'arbre dans le voisinage et l'apportaient en triomphe.
« Diable, ça devient sérieux, » pensa Corcoran.
Il se tourna vers Sugriva et lui dit
« La porte va être enfoncée, c'est clair. On donnera l'assaut. Personne ne sait ce qui peut arriver. Emmène Sita dans quelques coins de la pagode à l'abri des balles. »
Sita, pleine d'admiration pour le courage de Corcoran, voulait rester à côté de lui, mais Sugriva l'emmena malgré elle et la cacha dans une encoignure. Pendant ce temps, Louison ne disait rien. L'intelligente bête devinait tous les désirs et toutes les pensées de Corcoran. Elle savait qu'on lui avait confié la garde de la fenêtre, et rien n'aurait pu la détourner de ce devoir. Du reste, suivant sa consigne, elle se taisait, et restait couchée à plat ventre, les pattes détendues, réfléchissant et attendant. Cependant, le tronc d'arbre qu'on avait apporté fut dirigé à grand renfort de bras contre la porte de la pagode. Dès le premier coup, la porte faillit s'écrouler. Au second, l'un des battants fut enfoncé et laissa ouvert un espace qui pouvait suffire au passage d'un homme. Corcoran vit que le danger pressait. Et laissant à Louison le soin de garder la fenêtre, il se précipita vers la brèche. Il était temps, car déjà un Anglais montrait sa tête rousse et avait engagé ses épaules dans l'ouverture. Heureusement, le passage était encore un peu étroit. Quand l'Anglais vit approcher Corcoran, il voulut tirer sur lui un coup de carabine, mais il était tellement gêné par les battants de la porte qu'il n'eut pas le temps d'ajuster et de faire feu. Corcoran, au contraire, libre et maître de ses mouvements, appuya le canon de son revolver sur le crâne de l'Anglais et lui brûla la cervelle. Puis, comme il n'avait guère de munitions, il attira de son côté le cadavre de l'Anglais, lui prit sa giberne, ses cartouches, sa carabine, et, renfort plus précieux encore, une gourde d'eau-de-vie dont il avait grand besoin. Cela fait, il replaça l'Anglais devant la porte pour refermer la brèche et attendit. Cependant, les assiégeants s'impatientaient. Ils ne s'étaient pas attendus à rencontrer une résistance aussi sérieuse. Ils avaient déjà 2 morts et 1 blessé, et ils craignaient de faire des pertes plus considérables.
« Si nous mettions le feu à la pagode, » conseilla un lieutenant.
Heureusement, John Robarts n'entendait pas de cette oreille.
« Le colonel Barclay, dit-il, a promis 10 000 livres sterling si on lui ramène vivante la fille d'Holkar, mais nous n'avons rien à gagner si elle périt.
Allons, encore un effort, mes garçons. Est-ce qu'un Français tiendrait en échec la vieille Angleterre?
Si vous n'entrez point par la porte, entrez au moins par la fenêtre. »
On obéit aussitôt. Pendant que la moitié de la troupe continuait à tirailler au travers de la porte, l'autre moitié se précipita vers la fenêtre, qui était à 12 pieds du sol. 3 ou 4 soldats faisaient la courte échelle à un sergent, celui-ci met la main sur le rebord de la fenêtre, s'enleva à la force des poignets et, d'un élan vigoureux, s'assit sur la fenêtre. À cette vue, ses camarades s'écrièrent « Hurrah !» Mais le pauvre diable n'eut pas le temps de crier à son tour, car à peine avait-il ouvert la bouche lorsque Louison se dressa debout sur ses pattes de derrière, appuya ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre, saisit avec les dents le cou du malheureux sergent, le brisa et le rejeta sur ses camarades épouvantés. Jusque-là, on avait oublié Louison. L'exploit de la tigresse refroidit singulièrement l'ardeur des cavaliers. « Après tout, dit un officier, que faisons-nous là? Nous devrions être au camp. Si Barclay a laissé échapper la fille d'Holcar, c'est à lui de réparer sa faute et de la rattraper s'il peut. Nous sommes là, 50, occupés à canarder un gentleman que nous ne connaissons pas, qui ne nous avait fait aucun mal et qui ne nous en ferait aucun si nous consentions à le laisser tranquille. Franchement, cela n'a pas le sens commun. »
Barclay veut reprendre la fille d'Holcar, dit John Roberts. Je ne partirai pas sans avoir rempli ma mission.
Eh bien, répliqua l'autre,
rien ne presse. Nous prendrons la fille d'Holcar et son chevalier aussi aisément et bien plus commodément demain qu'aujourd'hui. La nuit va venir. Faisons seulement bonne garde, la main sur nos armes. Soupons et dormons. Corcoran n'a pas de vivres. Il sera bientôt forcé de se rendre.
Le calcul était assez juste, et Corcoran, qui entendait la délibération, était inquiet de l'avenir. Il vit les Anglais s'éloigner un peu de la pagode, et sans la perdre de vue, poser des sentinelles de distance en distance, et s'asseoir pour souper, car les coolies hindous les avaient suivis à distance avec des chariots et venaient de déballer l'argenterie, les pâtés de venaison, les viandes froides et les bouteilles de claret. Cette vue redoublait le supplice de Corcoran et lui tordait les entrailles, car il avait à peine déjeuné le matin, et la journée avait été remplie de tant d'événements qu'il ne lui était pas resté une minute pour penser au dîner. Mais ce n'était rien encore auprès de l'inquiétude qu'il avait pour sa chère Sita, élevée jusqu'ici dans le luxe et l'abondance d'un palais et qui se trouve tout à coup réduite aux extrémités de la fatigue et de la faim. Un sujet d'alarme encore plus redoutable était Louison. Certes, la tigresse était une amie dévouée, mais son appétit était encore plus grand que son dévouement. Et qui pourrait le lui reprocher? Le ventre n'est-il pas, suivant les physiologistes, le maître et le souverain de la nature entière? Peut-on reprocher à une pauvre tigresse, à peine frottée de civilisation, de ne pas être maîtresse de ses passions et de son appétit, quand on voit tous les jours de très grands princes élevés avec soin par de savants gouverneurs et nourris dès l'enfance de la sagesse des philosophes, manquer d'une façon éclatante à tous les préceptes de la morale et de la philosophie? Corcoran s'inquiétait donc, et avec raison, de l'avenir. Il voyait les yeux de Louison se tourner avec convoitise sur le malheureux sous-grivain, et il craignait un accident irréparable. Cependant, il n'avait guère que le choix des victimes, car Louison voulait souper à tout prix. Elle s'agitait, elle bondissait sans motif et sans but apparent. Évidemment, elle avait faim. Enfin, Corcoran prit son parti. « Ma foi, pensa-t-il, il vaut mieux qu'elle soupe d'un Anglais que de ne pas souper du tout, ou de souper de mon malheureux ami sous-grivain. » Sur cette pensée, il appela l'hindou. « As-tu faim ? » demanda Corcoran. « Oh, oui. As-tu des vivres ? » ?»«
Non. »«
Veux-tu souper ?»
Sous-grivain le regarda comme s'il ne comprenait pas.
« Oui, j'entends bien, » dit Corcoran. « Tu demandes où est le souper ? Eh bien, regarde. »
Et de la main, il lui montra les Anglais qui étaient déjà assis sur des tapis et qui avaient commencé à manger.
« Mon ami, » continua Corcoran, « Louison va sortir. Elle saisira une sentinelle. Bon, l'autre criera. On courra aux armes. Tu te glisseras adroitement dans l'herbe. Tu prendras le souper des Anglais et tu l'apporteras ici le plus vite qu'il te sera possible. Comprends-tu maintenant ? Moi, si c'est nécessaire, je ferai une sortie et les armes à la main pour protéger ton retour. C'est une affaire décidée ?
C'est décidé, dit le brahmine.
Louison reçut à son tour ses instructions, que Corcoran lui donna à voix basse, plus par geste que par parole. Au reste, la tigresse était si intelligente qu'elle devina tout de suite le but de sa sortie. Elle se coula joyeusement par la porte entrebâillée et fut suivie de sous-grivain.
Les Anglais, ne s'attendant pas à une sortie et se fiant d'ailleurs au nombre, n'étaient pas sur leur garde et buvaient joyeusement. La lune, qui s'était déjà levée, éclairait pleinement tous ses mouvements. Le factionnaire qui veillait devant la porte de la pagode était à 10 pas environ de l'ouverture. En 2 bonds, Louison sauta sur lui, le désarma d'un coup de griffe et lui ouvrit la tête avec ses dents. À ce bruit, au cri du factionnaire mourant, tous les Anglais prirent leurs armes et se mirent à chercher l'ennemi. La vue de Louison fit reculer un instant les plus braves, mais pendant ce temps, Sugriva, qui était presque nu, suivant la coutume des hindous, profitait du désordre et de l'obscurité, se glissait à plat ventre jusqu'au lieu du festin, se hâtait d'empiler le pain, la viande et quelques bouteilles de vin, et revenait sans avoir été vu. Pour attirer d'un autre côté l'attention des Anglais, Corcoran tira par la fenêtre 2 coups de revolver qui n'atteignirent personne. On lui répondit par une décharge de 40 coups de carabine. Les balles s'aplatirent sur le mur de la pagode. Aussitôt, Sugriva traversa en courant l'espace de 50 pas environ qui le séparait de la porte et se glissa à travers l'ouverture avec son butin. La sortie avait admirablement réussi. Mais Louison ne voulait pas rentrer. C'est en vain que le capitaine faisait entendre son sifflement habituel. Louison tenait son Anglais et ne voulait pas lâcher prise. Les autres Anglais firent sur elle une décharge générale, mais à distance et dans l'obscurité, car aucun d'eux ne voulait se hasarder la nuit à tirer à bout portant sur un tel adversaire. Corcoran frémit. Outre la tendresse réciproque qui l'unissait à Louison, c'est d'elle surtout qu'il attendait son salut.